Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du 13 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, après le report d'hier, les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle sont attendus aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain chiffrent leurs promesses anti-pauvreté.
Au Niger, 22 personnes sont mortes du choléra dans la région de Maradi.
En Libye, une quarantaine de miliciens condamnés à mort pour avoir tué des manifestants en 2011.
La Maison-Blanche a jugé regrettable les sanctions économiques prises en représailles par la Turquie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, c'est en principe le 19 septembre que la CENI doit publier la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre. Les prétendants au fauteuil présidentiel multiplient les promesses, Abdourahmane Dia.
L'opposant Félix Tshisekedi a affirmé hier qu'il voulait quasiment multiplier par 10 le revenu moyen des habitants en République démocratique du Congo, qui est présentement de 458 $ par an. Un autre candidat, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Bemba, a promis un plan de développement de 80 milliards sur 5 ans. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a chiffré son programme à 114 ou 120 milliards de dollars pour l'éducation, la santé et les logements sociaux. L'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, avait promis de mobiliser 100 milliards de dollars et de créer 3,5 millions d'emplois en lançant sa plateforme électorale en mars. Mais il a depuis été empêché de rentrer en RDC pour déposer sa candidature. Ces quatre opposants ou leurs proches indiquent qu'ils poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun d'ici à la publication définitive de la liste des candidats le mois prochain. Selon la Banque mondiale, la RDC est encore parmi les pays les plus pauvres du monde et se situe au 176e rang sur 187 pays dans l'indice de développement humain.
Le Mali devrait savoir ce jeudi qui, du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou de l'opposant Soumaïla Cissé, sera élu pour diriger ce pays pendant les 5 prochaines années. Les résultats provisoires que l'on attendait hier sont maintenant promis pour aujourd'hui. L'acheminement de certains procès-verbaux de localités du nord et du centre de cet immense pays ayant pris du retard selon des responsables gouvernementaux. Soumaïla Cissé a rejeté à l'avance une partie des résultats, notamment ceux de plusieurs localités du nord, caractérisées selon lui par du bourrage d'urnes.
Épidémie de choléra au Niger, sur 1351 cas recensés, 22 personnes sont mortes dans la région de Maradi, proche du Nigeria. C'est le dernier bilan annoncé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey. Le point avec Morgane Guiriec.
Un précédent bilan onusien faisait état le 7 août de 13 décès sur 993 cas. Plus de la moitié des malades sont des enfants âgés de 1 à 14 ans. Depuis la déclaration de l'épidémie début juillet, la riposte est engagée par les services locaux avec l'appui de l'OMS, l'UNICEF, MSF France et la coopération italienne. Le ministre nigérien de la Santé, Ilyasu Mainasara, qui s'était rendu sur place, a expliqué que l'épicentre de l'épidémie se situait dans la préfecture de Madarounfa, proche du Nigeria. Il avait assuré que la situation était sous contrôle. L'épidémie a contaminé au moins 8 quartiers de Maradi, la capitale économique du pays, avec 95 malades recensés contre 49 au 7 août, relève l'OCHA. Des experts redoutent une flambée de cette maladie très contagieuse en raison d'inondations liées à de fortes pluies dans la zone infectée.
En Libye, 45 miliciens ont été condamnés hier à mort par une cour du pays. Ils étaient accusés d'avoir tué des manifestants à Tripoli pendant la révolte contre le régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
124 personnes toutes en détention ont été jugées. 45 d'entre elles ont été condamnées à mort par fusillade. 54 à 5 ans de prison et 22 ont été acquittées par la cour d'appel de Tripoli. L'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de la capitale libyenne du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement d'une révolte populaire. Des miliciens pro-Kadhafi avaient alors ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim, Muammar Kadhafi a été capturé et tué par des miliciens de Misrata en octobre 2011, près de sa ville natale de Sirte. Depuis la mort du guide libyen, le pays a sombré dans le chaos avec deux autorités rivales, l'une basée à Tripoli et l'autre à Benghazi.
Signalons aussi que selon un rapport confidentiel de l'ONU consulté hier par l'AFP, des rebelles de la région soudanaise du Darfour sont en train de renforcer leur présence en Libye et de consolider leurs capacités militaires pour tenter de retourner combattre au Soudan. Selon ce texte élaboré par un panel d'experts de l'ONU, Khartoum continue de son côté à déverser des armes au Darfour pour y soutenir sa campagne militaire en violation de l'embargo sur les armes de l'ONU.
Le corps de Jonas Savimbi, chef historique de l'UNITA, ancienne rébellion angolaise, tué en 2002, sera exhumé avant la fin de l'année pour être enterré, et je cite, dignement. C'est l'information donnée hier par l'actuel chef de l'UNITA, devenu un parti politique. Les détails avec Bagassi Koura.
Isaias Samakuva, leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, assure avoir reçu des garanties du président João Lourenço, selon lesquelles les restes de Savimbi seraient rendus avant la fin de l'année. Seigneur de guerre, aussi charismatique que controversé, Jonas Savimbi avait été tué dans un accrochage avec les forces gouvernementales angolaises le 22 février 2002. Sa mort a mis fin à un conflit qui durait depuis 1975. Au lendemain de sa mort, il a été enterré quelque part à Luena, ville de l'Ouest. Selon Samakuva, le président a promis de s'engager personnellement. Samakuva a estimé au début du mois que le fait que le gouvernement privait Savimbi d'un enterrement digne était une preuve éclatante de sa politique d'exclusion et souligner l'impérative nécessité d'une véritable réconciliation nationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Maison-Blanche a jugé regrettable hier les sanctions économiques annoncées par la Turquie en réponse à celles prises par les États-Unis. Washington a à nouveau appelé à la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson. Le point avec Raissa Girondin.
Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré hier que les tarifs douaniers de la Turquie sont un pas dans la mauvaise direction. Selon elle, les tarifs imposés par les États-Unis relevaient d'intérêts de sécurité nationale alors que la Turquie mène des représailles. Par ailleurs, elle a regretté que la Turquie ait traité de façon très injuste, très mauvaise, le pasteur Brunson, un chrétien fervent qui n'a rien fait de mal. Elle a ajouté que même en cas de libération du pasteur, les tarifs imposés par les États-Unis sur l'acier turc resteront en place. La porte-parole de la Maison-Blanche précise que les problèmes économiques de la Turquie sont le fruit d'une tendance à long terme, quelque chose dont Ankara est responsable et non pas le résultat de quelconque action prise par les États-Unis.
En Arabie Saoudite, les forces de sécurité ont capturé un extrémiste djihadiste lourdement armé après un échange de tirs dans le centre du pays, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Cet homme, dont la nationalité n'a pas été précisée, adhère à l'idéologie du groupe État islamique et a été donc trouvé en possession d'une arme automatique, d'un pistolet et de nombreuses cartouches, a indiqué le ministère saoudien dans un communiqué. L'incident est survenu alors que le royaume se prépare à accueillir le pèlerinage annuel à la Mecque du 19 au 24 août.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier la décision d'Israël de rouvrir un point de passage vital pour Gaza, en appelant à soutenir les efforts des Nations Unies et de l'Égypte pour faire face à la crise dans l'enclave palestinienne. Le point de passage de Kerem Shalom était fermé depuis le 9 juillet à tout autre transit qu'humanitaire, aliments, médicaments, équipements médicaux, en représailles, je cite, aux actes hostiles en provenance de Gaza.
En Afghanistan, près de 50 personnes, pour la plupart des étudiants, ont été tuées, une quarantaine blessées mercredi dans un nouvel attentat suicide à Kaboul. L'attentat est survenu dans une école d'un quartier chiite à l'ouest de la capitale afghane. Le porte-parole de la police avait, lui, parlé de 37 morts, tout en disant craindre que le bilan ne s'alourdisse encore. Et d'autres officiels ont avancé le chiffre de 48 victimes.
Le président américain Donald Trump a révoqué l'habilitation l'opération Secret Défense de l'ancien chef de la CIA, John Brennan, un ex-proche conseiller de son prédécesseur démocrate Barack Obama, fréquemment critique de M. Trump. Cette habilitation donne accès à des informations sensibles et confidentielles. La porte-parole Sarah Huckabee Sanders a lu un communiqué de M. Trump justifiant sa décision par, je cite, « les risques que faisait courir la conduite et le comportement erratique de John Brennan ». Ce dernier a évoqué en réaction une décision faisant partie d'une volonté plus large de supprimer la liberté d'expression et de punir les critiques. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco reste à Gironde.
Le Congo est bien loin de la banqueroute, a affirmé son président Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la fête nationale ce mercredi. Le pays est toujours en négociation avec le Fonds monétaire international. Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques, selon le président. Le Gabon voisin, également touché par les fluctuations des prix du pétrole, est parvenu à cet accord il y a un an. En Mauritanie, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Yahya Oud Abdedayem, a indiqué que le niveau d'accès à l'eau potable dans le pays est passé de 44% en 2008 à 70% en 2018. Pendant cette période, plus de 1100 réseaux d'adduction d'eau potable et 650 puits artésiens ont été réalisés et équipés, a précisé le ministre en lançant un important projet hydraulique à Kifa, à 600 km au sud-est de Nouakchott. Selon lui, ces infrastructures hydrauliques ont profité à près de 1,2 million de personnes. Le Trésor américain a annoncé des sanctions financières contre deux entreprises russes et chinoises accusées d'avoir continué à avoir des relations commerciales avec la Corée du Nord, malgré l'embargo contre Pyongyang. Il est reproché au groupe chinois Dalian Sunmoonstar d'avoir exporté de l'alcool et des cigarettes vers la Corée du Nord en falsifiant les documents de livraison. Une société russe, Profinet, est également sanctionnée pour avoir fourni des services portuaires à des bâtiments nord-coréens.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real Madrid, sans Ronaldo ni Zidane, perd sa première finale.
Mené de 2-1, l'Atlético Madrid est parvenu à s'imposer 4-2 après prolongation et remporter la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid. Tout a mal débuté pour les merengues à Tallinn. L'Atlético a ouvert le score dès la première minute par Diego Costa, mais le dernier vainqueur de la Ligue des Champions a parfaitement réagi grâce à Karim Benzema en seconde période. Real Madrid a inscrit un second but sur pénalty grâce à Sergio Ramos et Diego Costa, encore lui, a permis à l'Atlético d'égaliser. Il a donc fallu aller en prolongation et là, les Colchoneros, mieux organisés, ont réussi à faire exploser le Real Madrid, notamment grâce à un but de Niguez sur une erreur défensive de Ramos et de Varane, puis une frappe de Coquet après un décalage de Vitolo. Une victoire finale 4-2 pour l'Atlético Madrid.
On reparle de Lionel Messi.
Oui, le FC Barcelone va faire tout son possible pour reconquérir la Ligue des Champions et fait sa priorité de cette coupe si désirée. Après 3 années de mainmise du Real Madrid, c'est ce qu'a déclaré hier Lionel Messi qui a été promu capitaine du club catalan.
Victor Moses met fin à sa carrière internationale.
L'international nigérian annonce sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale sur sa page Twitter. Victor Moses, 27 ans, annonce qu'il ne jouera plus pour les Super Eagles malgré une belle prestation lors de la dernière Coupe du Monde en Russie où il avait notamment marqué contre l'Argentine. L'ailier nigérian va plutôt se consacrer à son club Chelsea.
Transfert.
L'attaquant international ivoirien Wilfried Zaha a prolongé jusqu'en 2023 avec Crystal Palace. Le buteur de 25 ans poursuit ainsi sa longue histoire avec l'équipe du sud de Londres qu'il a rejoint à 12 ans lors du centre de formation. On vous donne également des nouvelles d'Alexandre Song. Le FC Sion a officialisé l'engagement de l'ancien milieu défensif de Barcelone et d'Arsenal. Depuis 2016, Song jouait avec le Rubik Kazan. Il a également évolué, je vous le disais, en Angleterre, disputant plus de 200 rencontres avec Arsenal entre 2006 et 2012. Avec les Lions indomptables, Alexandre Song totalise 49 sélections, 2 participations à la Coupe du Monde et une finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Les supporters de retour dans les stades en Égypte.
Oui, c'est le ministre des Sports et de la Jeunesse égyptien qui a annoncé que les supporters pouvaient désormais retourner au stade. Les enceintes sportives devraient pour le moment accueillir 5000 spectateurs à partir du 1er septembre, principalement des étudiants. Depuis 6 ans, les Égyptiens ne pouvaient plus assister aux rencontres du championnat après le drame de Port Saïd. C'était le 1er février 2012, lors d'un match entre Al Masry et Al Ahly du Caire, où 74 personnes avaient perdu la vie et environ un millier d'autres blessés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Sénégal doit faire l'une de ses priorités, la tenue de procès équitables et mettre immédiatement fin à l'intimidation et au harcèlement des leaders de l'opposition. C'est ce qu'a souligné Amnesty International dans un rapport intitulé « Des paroles non suivies d'actes », mettant en exergue le cas du maire de Dakar emprisonné, Khalifa Sall, à l'approche de l'élection présidentielle de 2019. Jacques Aristide, envoyé spécial de VOA Afrique à Dakar, fait le point avec Sidi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
La situation des droits humains au Sénégal est très très loin d'être bonne. Le Sénégal a été pendant longtemps la nation phare en Afrique en matière de démocratie et de respect des droits humains. Mais nous avons observé beaucoup de recul depuis 2009 avec l'ancien président Blaise Compaoré. Nous avions estimé que Macky Sall, qui a été élu à la suite d'émeutes et de violations graves des droits humains, allait vraiment opérer une rupture dans le bon sens. Malheureusement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a repris les mêmes pratiques qui ont marqué la fin du règne de Blaise Compaoré, avec notamment des interdictions de manifestations. Par rapport à la violence policière, il n'y a eu aucun changement. Bien au contraire, les décès dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ont continué à se multiplier, avec une impunité presque totale.
Il y a un autre point que vous soulignez, c'est la question de procès inéquitable. Alors, c'est quoi le problème et pouvez-vous nous donner des exemples concrets ?
L'exemple le plus concret, c'est le cas de Khalifa Sall. Sa détention a été émaillée de bout en bout d'irrégularité. C'est d'abord de l'interroger sans lui permettre d'avoir accès à un avocat, et cela a été relevé par la Cour de justice de la CEDEAO. Cela était suffisant pour annuler la procédure, parce que le Code de procédure pénale prévoit expressément que lorsque vous êtes arrêté, dès votre interpellation, on doit vous informer que vous avez droit à un avocat. On ne parle même pas de garde à vue, mais dès l'interpellation. Or, Khalifa Sall, pendant toute sa garde à vue, il a été interrogé sans qu'il ait accès à un avocat. Donc c'est une raison suffisante pour que la procédure soit annulée et qu'il retrouve la liberté. L'autre irrégularité, évidemment, que la CEDEAO a relevé aussi, c'est son immunité parlementaire. La constitution du pays est extrêmement claire. Tout député élu bénéficie d'une immunité parlementaire. Et nous, à l'époque, nous avions demandé à l'État de le libérer et ensuite de procéder à la levée de son immunité. On n'a pas accédé à cette demande.
Mais en même temps, on peut vous dire qu'il y a eu une enquête, qu'il y a eu un procès et que finalement on l'a trouvé coupable. Et de venir dire qu'il n'a pas bénéficié.
Vous savez, ce discours qui est tenu par des ministres ou responsables montre simplement le cynisme des gens qui dirigent le Sénégal aujourd'hui. Ce sont des personnes extrêmement cyniques. Vous savez, Khalifa Sall, il a été le premier homme politique au Sénégal à faire une déclaration de patrimoine. Dès qu'il a été élu à la tête de la mairie de Dakar, donc dans cette affaire, il n'y a absolument rien du tout. La seule chose qui existe, c'est la volonté d'écarter un adversaire politique. Parce que si la motivation était de bien gérer les deniers de la mairie de Dakar, c'était de réformer les lois qui régissent le fonctionnement de cette caisse d'avance et d'empêcher qu'il utilise la caisse pour se faire une clientèle politique. Mais c'était manifestement pas suffisant, il fallait le mettre en prison.
Sidi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Comment la sortie d'Amnesty International peut-elle jouer sur l'image du Sénégal, un pays perçu comme un modèle de démocratie en Afrique? Eh bien, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le journaliste Madiambal Diagne.
Bon, il faut comprendre que le devoir ou le droit de veille d'une ONG comme Amnesty International est de rigueur et que toute situation qui peut être perçue comme une menace contre les libertés ou une entrave aux libertés publiques peut être une source de réaction d'Amnesty International. Par contre, je trouve que la position vis-à-vis du Sénégal me semble excessive. Dire que les hommes politiques sont embastillés comme on veut le faire croire ne me semble pas. Les dossiers judiciaires qui ont été instruits ici au Sénégal ont révélé que des hommes politiques ont eu des indélicatesses avec la loi. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on peut détourner l'argent public ou bien violer la loi sans être poursuivi. Chaque citoyen sénégalais qui violerait la loi serait poursuivi. Pourquoi tannerait-on les hommes politiques? Si c'est le cas, tous les délinquants seraient devenus des hommes politiques.
Mais certains diraient aussi que ce sont plutôt les hommes politiques de l'opposition. Si on prend par exemple le cas de Khalifa Sall qui a récemment déclaré sa candidature, même si se démêler avec la justice précède un peu sa déclaration de candidature.
Ah ben justement, vous le soulignez bien. Si chaque homme politique poursuivi peut se déclarer candidat à la présidence de la République pour souhaiter avoir un parapluie ou bien peut-être bénéficier d'une immunité de campagne, on s'en sortirait pas.
Il n'était pas forcément un grand ami du régime en ce moment.
Il n'était pas non plus un grand ennemi du président de la République ou de son régime. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse regarder de plus près qu'est-ce qu'il y a reproché à Khalifa Sall. C'est des faits qui ont été là et qui, aujourd'hui, ont même été reconnus par l'intéressé lui-même. Et des éléments de preuve qui ont été apportés n'ont pas été infirmés ou démentis. Dans ces conditions, comment peut-on ne pas ouvrir une information judiciaire et appliquer les rigueurs de la loi? La loi sénégalaise en matière de soumission de deniers publics est très précise. C'est une loi qui date de 1965. Peut-être qu'il faudrait la réformer, je ne sais pas. Mais en l'état actuel du droit positif sénégalais, toute personne poursuivie pour des faits similaires doit être emprisonnée jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit terminée. À défaut d'emprisonnement, la personne doit pouvoir les sommes qui lui sont réclamées et faire preuve de contestation sérieuse. Dans le cas présent, Khalifa Sall n'a pas contesté, lui, il a reconnu les faits et il n'a pas cautionné les sommes nécessaires. Je pense qu'on lui applique la loi comme on l'appliquerait à tous les Sénégalais. Moi, alors, ce que j'aurais souhaité comme attitude, qu'on puisse me dire qu'on ne lui a pas appliqué la loi comme on a appliqué la loi avec d'autres Sénégalais.
Alors, Madiambel Diagne, en tant qu'observateur de la scène politique sénégalaise, quand des ONG comme ça s'en prennent au Sénégal, ce qui n'est pas très fréquent, est-ce que vous ne craignez pas pour l'image de votre pays à l'approche des élections?
Ah ben bien sûr, c'est toujours regrettable qu'on puisse pourfendre un pays de la sorte. Maintenant, le rôle des ONG qui est de mettre la pression sur les pouvoirs publics est un rôle que je salue et que je trouve normal. Maintenant, le combat, ce n'est peut-être pas d'expurger ou bien enfin de protéger les gens des procédures judiciaires. C'est de faire en sorte que tous les délinquants soient poursuivis. Pour moi, c'est ça l'enjeu du combat.
Eh bien, c'était Madame Diagne, directeur du journal Le Quotidien à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Congo-Brazzaville vient de fêter son 58e anniversaire d'indépendance, mais le pays traverse une grave crise financière. Malgré les efforts du gouvernement, aucun accord n'a pu être signé avec le FMI, l'institution financière internationale qui continue d'exiger aux autorités des mesures audacieuses. Précision d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Toujours pas d'accord avec le FMI. Le dernier rendez-vous du Congo avec l'institution financière a été annulé et c'est pour la 6e fois que cet agenda n'est pas tenu. Apparemment, le mal se trouve côté congolais. L'économiste Hassène Bozir, membre de l'ITIE, explique.
Le FMI voudrait avoir des assurances, être convaincu que les engagements pris par le gouvernement sont respectés de telle sorte qu'il avance. Ils attendaient que le Congo fasse des vraies réformes sur la SNPC. Les choses n'ont pas bougé. Les mêmes dirigeants qui sont à l'origine, par exemple, du chaos au niveau de la SNPC, en dehors de Christel Denis Sassou Nguesso qui a sauté, on ne voit pas un autre dirigeant qui a sauté, alors que c'est les mêmes. Vous avez au niveau le portefeuille public. Ces entreprises sont presque en faillite. Mais le gouvernement ne bouge pas. Quelles sont les mesures prises? Il n'y a rien. Vous avez sur le train de vie de l'État. Jusqu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement pléthorique.
La situation est intenable pour les populations, notamment les boursiers et les retraités, dont les pensions ne sont plus payées depuis des mois. Clément Mirassa, statisticien et ancien ministre du Commerce, évoque sa situation de retraité et décrit celle du pays.
Aujourd'hui, les retraités sont pratiquement à 16 mois d'arriéré. Et il y a un lot de milliers de retraités qui ne sont pas encore pris en compte au niveau de la CRE. C'est un problème extrêmement sérieux. Avoir le courage de s'attaquer à la lutte contre la corruption. Si nous ne le faisons pas, ce n'est même pas l'accord avec le Fonds monétaire qui nous fera avancer.
Mais le président Denis Sassou Nguesso, dans son message du mardi soir à la Nation, est resté optimiste sur la conclusion de cet accord. Au PCT, son parti, on estime que le FMI est une démarche salvatrice. Le porte-parole Serge-Michel Ndzouki.
Ben nous, au niveau du Parti Congolais du Travail, on est d'abord préoccupé par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous soutenons le gouvernement, le camarade président du comité central, dans sa démarche vers le FMI pour arriver à une conclusion. Et nous soutenons surtout la détermination du gouvernement du président de la République à lutter contre les antivaleurs.
En attendant de conclure avec le FMI, un plan national de développement dont la réalisation exige plus de 15 000 milliards de francs CFA en 5 ans vient d'être adopté. Augustin Benazo, analyste économique.
Quand tu prends la somme des dettes que le Congo a aujourd'hui, ça fait au-delà des 15 000 milliards que le PND sollicite pour sa mise en œuvre. Donc le PND, pour nous, ce n'est pas la solution immédiate, c'est une solution à long terme.
Arsène Sévère. Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La Turquie a fortement augmenté les tarifs douaniers de plusieurs produits américains emblématiques, alimentant une crise diplomatique avec les États-Unis. Alimentation, donc, une crise qui a fortement malmené la livre turque. Comment expliquer cette chute de la monnaie turque? Idriss Fall a joint Jean Marcou, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien directeur de l'Institut français à Istanbul.
Je crois qu'il y a une baisse tendancielle de la monnaie turque, que depuis 7-8 ans a perdu 70% de sa valeur, mais en particulier depuis 4 ans, elle a perdu près de 40%. Et là, ces derniers jours, ça s'est accéléré, notamment depuis ce début de crise aiguë entre les États-Unis et la Turquie.
Erdogan accuse le président Donald Trump.
Oui, il y a une sorte d'épreuve de force entre les deux hommes, mais il y a une crise qui a probablement deux origines. D'une part, cette tendance et d'autre part cette accélération y a suivi finalement une épreuve de force qui est devenue, au-delà d'une épreuve de force entre deux pays, une épreuve de force entre deux hommes à propos de cette affaire d'emprisonnement du pasteur Brunson.
Donc derrière le pasteur Brunson, Ankara demande aussi qu'on leur livre Fethullah Gulen.
Il y a depuis plusieurs années entre les États-Unis et la Turquie, en dehors de désaccords en particulier sur la Syrie à propos des Kurdes de Syriens, il y a des désaccords d'ordre judiciaire, une série d'affaires judiciaires qui empoisonnent les relations turco-américaines. Alors, il y a effectivement celle du pasteur Brunson, qui est en première ligne actuellement, mais il y a aussi, comme vous le disiez, le problème d'extradition de Fethullah Gulen, et il y a également l'emprisonnement d'un ancien dirigeant d'une banque publique turque qui a été accusé d'avoir contrevenu à l'embargo avec l'Iran et qui est actuellement emprisonné également aux États-Unis. Il y a d'autres affaires encore. Ces affaires, dans ce contexte, effectivement, sont un élément supplémentaire qui empoisonne les relations entre les deux pays.
Est-ce que Ankara a les moyens de faire de la résistance économique comme le menace Erdogan?
Oui, je pense qu'effectivement Ankara essaye de prendre des mesures économiques, mais je crois que tous les éléments entrent en compte. Il n'y a pas seulement les questions économiques, il y a également les problèmes d'armement, les questions stratégiques. Le problème dans le contexte actuel, c'est qu'on a un différend qui s'est enchevêtré autour de cette affaire Brunson et finalement avec un engagement des deux leaders politiques, Erdogan et Trump, qui sont deux personnalités très obstinées. Donc on a un risque d'escalade qui vient de cette opposition de personnalités.
La Turquie est alliée de l'OTAN et la principale base américaine de lutte contre le groupe État islamique se trouve aussi en Turquie.
Oui, c'est la base d'Incirlik. Et d'ailleurs, pour l'instant, on observe que la Turquie a parlé beaucoup de rétorsion. Elle a pris des mesures contre les secrétaires américains qui étaient des mesures qui se voulaient des ripostes aux mesures prises contre les ministres turcs, mais enfin qui était très symbolique. Il y a eu effectivement ces déclarations d'Erdogan sur l'idée de jeter un embargo sur l'électronique américaine. Mais une des cartes qu'a la Turquie effectivement en main, c'est la base d'Incirlik. Et pour l'instant, on s'aperçoit que la Turquie n'a pas ouvertement évoqué cette base. Ça montre qu'elle essaye de garder encore dans sa manche un certain nombre de cartes avant de les abattre.
Jean Marcou, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien directeur de l'Institut français à Istanbul.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.